Nous voulons prier. Ô Dieu, tu nous vois encore ce soir réunis autour de la personne de ton Fils bien-aimé, Jésus, que tu nous as donné dans ton immense amour. Et nous voudrions vraiment le contempler ce soir. Nous voudrions l'entendre, nous parler lui-même, apprendre quelque chose de lui qui nous attache d'une façon plus totale à la personne de ton bien-aimé qui a toujours fait tout ton plaisir, tes délices. Nous savons que si vraiment nous lui étions attachés, nous vivrions du bonheur de Dieu. Du bonheur de Dieu sur cette terre de souffrance, de misère, de péché. Nous vivrions dans la sainteté, dans la justice, dans la vérité. Et nous serions heureux. Alors nous te demandons, ô Père, à cause de ton amour et de ton nom, agis en puissance au milieu de nous et donne gloire à Jésus et à Jésus. Amen. Mes bien-aimés, en ce dimanche soir, 30 juin 1996, nous continuerons l'étude de ce thème, Jésus lui-même s'étant approché, se mit à marcher avec eux. Nous savons que c'était deux disciples qui avaient quitté Jérusalem et qui s'en allaient tout tristes vers leur demeure à Emmaüs. Et hier soir, nous avons lu ce chapitre 24 de Luc qui contient le texte qui a été choisi comme thème de ce camp. Mais déjà hier soir, nous avons compris que pour saisir vraiment le sens profond du chapitre 24, il fallait avoir lu le chapitre précédent qui nous relate l'arrestation de Jésus, son jugement inique devant le Sanhédrin, les chefs juifs, puis devant Pilate, qui renvoie Jésus au roi Hérode, qui se moque du Seigneur, et qui retourne Jésus à Pilate. Et Pilate, convaincu de son innocence, mais craignant la foule, essaye d'apitoyer la foule en faisant fouetter Jésus pour le leur montrer tout sanglant après la flagellation et qui, ayant reçu même un message de sa femme, n'ait rien à faire avec ce juste, n'écoute pas ce conseil, fait taire sa conscience, et livre finalement Jésus pour qu'il soit crucifié. Voilà les événements que nous avons rappelés en considérant le contenu de ce chapitre 23e. qui nous amène aussi à la mort réelle sur la croix au sein des ténèbres qui ont enveloppé la ville depuis midi jusqu'à la neuvième heure, qui a pris fin par ce grand cri que Jésus crucifié en deux brigands a prononcé, un cri qui mettait fin à cette œuvre qui devait nous racheter totalement et une fois pour toutes de tous nos péchés. Il avait tout accompli et il pouvait dire, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et alors, quand l'esprit est hors d'un corps, qu'est-ce qui se passe pour le corps? C'est la mort. Et c'est la constatation qui a été faite au soir du vendredi saint. Jésus était réellement mort. Mais il n'était pas mort parce qu'il avait péché. Il ne devait pas mourir, de sorte que sa mort ne pouvait être que volontaire. Il n'est pas mort d'épuisement. Physiquement, oui, il était épuisé, douloureux, dans toutes les parties de son être, mais c'est avec un grand cri qu'il est mort, parce qu'il donnait sa vie. Il n'avait pas à mourir, et s'il mourait, c'était vraiment pour racheter l'humanité pécheresse. C'était cela le conseil de son Père, qu'il avait voulu pleinement accomplir. Et sur la terre, il avait pu dire à plusieurs reprises, à cause de ceci, le Père m'aime, c'est que moi, je donne ma vie pour mes brebis. Et alors, ce que nous avons considéré hier en particulier, c'est qu'il y avait un groupe de femmes qui avaient suivi Jésus depuis la Galilée où il avait commencé son ministère et qui assistaient de loin à cette tragédie de Golgotha, du calvaire. C'était des femmes qui avaient vraiment aimé le Seigneur. Elles l'avaient entendu, elles avaient cru en lui, elles l'avaient accepté comme leur sauveur, et elles avaient tout quitté pour lui. Et pendant les années de son ministère, ces femmes l'avaient suivi. Et nous avons lu qu'elles se tenaient à l'écart, mais qu'elles regardaient tout ce qui se passait. Je relis depuis le verset 55, du chapitre 23. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph et vire le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Parce qu'on l'a vu, quand l'esprit est loin du corps, il reste un corps. Et ce corps, où était-il? Cloué sur la croix. Alors, représentez-vous cette scène. Nous avons vu hier soir Joseph d'Arimathée, un homme riche, qui était disciple en secret de Jésus, mais qui se manifeste au moment de sa mort avec un autre homme qui lui a apporté aussi des aromates et qui s'appelait Nicodème, aussi disciple en secret de Jésus. Alors je vous le demande, vous qui êtes ici, voulez-vous être seulement les fossoyeurs du Christ ou voulez-vous témoigner par votre vie pour le Christ au risque de devoir souffrir? Bien, comme Nicodème et comme Joseph d'Arimathée, vous manifestez dernier moment quand Jésus est mort. Alors là, ils ont le courage de venir jusqu'à la croix et même d'aller chez Pilate pour demander le corps de Jésus. Fossoyeurs du Christ dans l'Église ou témoins du Christ? Les femmes qui l'avaient suivi regardaient cette scène. Elles ont suivi Nicodème et Joseph d'Arimathée. Elles ont regardé où l'on mettait ce corps de Jésus, de ce Jésus qu'elles avaient tant aimé, pour lequel elles avaient tout quitté. Et elles, que pouvaient-elles faire pour Jésus? Elles étaient très croyantes, elles observaient toutes les règles de la religion qui leur interdisaient de faire une œuvre le jour du sabbat. Alors elles se sont reposées après avoir vu où l'on avait mis le corps de Jésus. Mais ce qu'elles savaient aussi, c'est que ce tombeau où reposait Jésus, il était gardé. Les Juifs avaient payé des soldats pour garder ce sépulcre. Que pouvaient-elles faire? Alors elles ont pensé que le lendemain, après le repos du sabbat, elles pourraient faire encore quelque chose, au moins pour le corps de Jésus. Elles ont acheté des aromates. Mais ce dont elles ne se sont pas souvenues, c'est des paroles de Jésus. Et voyez-vous, mes amis, dans ces jours qui sont les jours de la fin, nous sommes une multitude à ne pas nous souvenir des paroles de Jésus. Et nous faisons un tas de choses pour Jésus qui sont parfaitement inutiles, qui ne servent à rien, qui ne vont pas changer le monde. Il y a en tout cas une parole que nous avons oubliée, frères et sœurs, et j'en suis convaincu, une parole que Jésus a dit avant de quitter les siens et qu'on ne croit plus, une parole à laquelle on ne pense plus, une parole on ne s'attend pas qu'elle se réalise. C'est laquelle? Je reviendrai absolument. Jésus avait dit « Je reviendrai ». Et aujourd'hui, nous ne pensons pas à son retour. Qu'est-ce qu'il avait dit Jésus à ces femmes? Elles l'avaient entendu. Et qu'est-ce qu'elles avaient oublié pour qu'elles en arrivent, après la mort de Jésus, à préparer des aromates pour embaumer le cadavre de Jésus? Qu'est-ce qu'elles avaient oublié? La résurrection. Est-ce que Jésus avait parlé de sa résurrection? Il avait annoncé ses souffrances, il avait annoncé sa mort, mais il avait toujours dit « le troisième jour, je ressusciterai ». Et le jour où elles ont préparé les aromates, c'était le troisième jour. Elles avaient oublié ce grand événement, c'était incroyable pour elle, puisque Pierre lui-même n'avait pas pu admettre la mort de Jésus. Mais je lis maintenant, pour que vous soyez bien assurés de ce qui peut nous arriver à nous aussi, comme il est arrivé à ces femmes, au chapitre 8, de Luc, je voudrais que vous appreniez un peu à connaître qui étaient ces femmes de Galilée. Luc, chapitre 8, verset 1er. Jésus allait de ville en ville et de village en village. C'est un petit peu le cantique que j'ai essayé d'apprendre aux enfants. Tout à l'heure, Jésus allait de lieu en lieu, de village en village, annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui, et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Et puis les noms sont donnés, 3 noms ici. Marie de Magdala, celle qu'on appelle Marie-Madeleine, de laquelle étaient sortis 7 démons. 7 démons qui la rendaient esclave de tous les péchés que l'on peut commettre. Et Jeanne, femme de Chusa, intendant d'Hérode. C'était une femme qui avait un mari haut placé, même chez Hérode. Puis il y avait Suzanne et plusieurs autres. Et qu'est-ce qu'elles faisaient, ces femmes? Je suis toujours touché par ce texte. Elles assistaient le Seigneur de leur bien. C'était des femmes riches. Elles n'avaient pas voulu seulement suivre le Seigneur, mais elles étaient pratiques. Elles savaient bien que vivre avec 12 disciples, ça coûte quelque chose. Et qui sont les êtres qui ont financé le ministère du Seigneur? Ce sont essentiellement ces femmes. Elles l'ont pas fait un jour. Elles l'ont fait pendant tout ce ministère de Jésus, depuis qu'elles l'avaient rencontré. Et alors, elles avaient entendu ces paroles. Et en particulier, je vous lirai encore ce qu'il disait au chapitre 9 du même évangile, au verset 20e, ou lisons déjà depuis le verset 18e. Un jour que Jésus passait priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, et les femmes étaient là. Il leur fit cette question, « Qui dit-on que je suis ?» Et ils répondirent, Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres un ancien prophète qui est ressuscité. « Et vous ?» leur demanda-t-il, « Qui dites-vous que je suis ?» Pierre répondit, « Tu es le Christ de Dieu, ou le Christ du Dieu, le Fils du Dieu vivant. » Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne, parce que ça ne serait pas compris. Parce qu'il faut faire attention, on vous dit toujours qu'il faut témoigner, témoigner, témoigner pour Jésus. Faites attention. Avant de vous vouloir témoigner pour Jésus, est-ce que vous allez recommander vraiment Jésus à ces âmes auxquelles vous parlez, ou bien est-ce que vous allez les détourner de Jésus? Parce que nos vies sont si peu semblables à celles de Jésus que les gens ne sont pas intéressés d'avoir notre Jésus. Qu'est-il vraiment pour nous, notre Jésus? Est-ce que nous en parlons de telle manière que les âmes savent et éprouvent que ce Jésus a la première place dans nos cœurs, que le monde, nous lui avons tourné le dos, et que nous voulons marcher vraiment comme Jésus a marché, que l'aimer, c'est vraiment lui obéir, c'est vraiment prendre au sérieux sa parole. Parce que sans ça, même notre témoignage est un témoignage qui crée des athées. Quand on voit les chrétiens, on ne peut plus croire en Christ. Voilà ce que beaucoup disent. Et vous savez, ça va loin. Et cela, je l'accepte pour moi-même. Verset 23. Jésus, après leur avoir sévèrement interdit de dire simplement qu'il était le Christ, le Fils du Dieu vivant, il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup et qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Et nous apprenons dans un autre évangile, c'est dans l'évangile de Matthieu, que quand Pierre avait fait cette confession qu'il était le Christ, le Fils du Dieu vivant, le Seigneur avait souligné qu'il allait souffrir beaucoup et qu'il allait être rejeté. Et Pierre lui avait dit, « Mais Seigneur, ça ne peut pas arriver. » Je lis au verset 21 du chapitre 16 de Matthieu. Quand Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour, Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et lui dire, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, qu'est-ce qu'il lui a dit? Arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale. Alors, si Pierre a pu être en scandale à Jésus, vous comprenez qu'on peut l'être aussi au monde. tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alors, ce que je voudrais souligner ce soir, c'est que ces femmes avaient donc entendu Jésus annoncer ses souffrances, je reviens au chapitre 24, et elles l'avaient aussi entendu dire qu'il allait ressusciter le troisième jour. Et pourtant, elles achètent des aromates. Qu'est-ce qu'on fait avec des aromates? On embaume un mort. Alors, elle ne pense pas qu'il va ressusciter le troisième jour. Et pourtant, qui est-ce qui croyait, qui craignait que Jésus ressuscite le troisième jour? C'était les Juifs, les principaux, eux se souvenaient qu'il avait dit cela, et je voudrais vous rappeler cela. Dans Matthieu 27, au chapitre 27, verset 62, les chefs juifs viennent vers Pilate et lui demandent justement une garde. Verset 62. Du chapitre 27. Le lendemain, donc, du jour de la crucifixion, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent, Seigneur, nous nous souvenons, mais nous ne nous, nous souvenons pas. Ceux qui n'étaient pas des disciples, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Et vous savez, quand on lit certains ouvrages aujourd'hui, de gens qui ne croient pas au retour du Seigneur, ils en parlent quand même. Ils savent bien que Jésus a dit qu'il reviendrait, mais ils n'y croient pas. Et même certains vont jusqu'à dire, mais s'il revenait, on le crucifierait à nouveau. On ne peut pas supporter la pensée de ce retour de Jésus. C'est pas possible. Jésus n'a pas voulu dire cela. Il ne revient pas réellement, parce qu'il n'est pas ressuscité réellement. Et on espère retrouver ses os quelque part, en terre sainte, puisqu'on ne les a pas trouvés dans le sépulcre, parce qu'on a ce témoignage, le sépulcre était vide. Alors, je ne voudrais pas que vous ayez une trop mauvaise idée, une trop mauvaise image de ces femmes, et qui avaient oublié que Jésus avait dit qu'il allait ressusciter. Elles ont donc acheté des aromates. Elles ont préparé des aromates. Il y a en tout cas une chose qui est sûre, c'est qu'elles aimaient le Seigneur. C'est vrai ou c'est faux? Ces femmes qui avaient tout quitté depuis la Galilée, qui soutenaient de leur bien le Seigneur, elles aimaient le Seigneur. Elles l'avaient aimé, elles l'avaient suivi. Elles l'avaient assisté de leur bien, elles avaient assisté à son agonie, elles sont restées dans la nuit de midi, quand la nature s'est voilée comme si elle ne pouvait plus supporter le tableau de la croix. Mais ce qui leur manquait, c'était le souvenir des paroles de Jésus, une partie de ce qu'il avait dit le troisième jour, « Je ressusciterai ». Alors, ayant bien observé le sabbat, comme beaucoup de gens observent un tas de règles, un tas de rythmes chrétiens, on observe, oui encore, eh bien, elles observent le sabbat, mais elles croient qu'elles doivent préparer des aromates. Et c'est pour ça que je vous disais hier, cette préparation d'aromates, c'est vraiment les œuvres mortes des chrétiens. C'est tout ce que nous accomplissons et que Dieu ne nous a pas demandé. Il y a tant de croyants qui disent tout le temps qu'ils sont crevés à cause de leur fatigue, de leur ministère, etc. Mais est-ce que Dieu leur a demandé de faire tout ça? Il a toujours dit qu'il renouvelait la force de ceux qui veulent faire sa volonté, mais le Seigneur n'a pas dit qu'il mettrait sur nous un pesant fardeau, il a dit que son joug serait aisé, que son fardeau était léger, mais nous voulons faire un tas de choses pour le Seigneur, nous ne sommes pas capables d'accomplir ce qu'il nous a demandé. Mais vous voyez, ces femmes, elles aiment le Seigneur. C'est un manque d'intelligence qui les caractérise. Et aussi un manque de foi. Et je crois que c'est ce qui nous manque le plus. Chaque fois que vous trouvez une parole dans l'Écriture, la foi se manifeste quand on entend une parole, on la croit. Mais c'est tous les jours. C'est pas au moins j'ai été sauvé il y a X années, depuis demain, on aura, je l'espère, quelques témoignages. Mais c'est ce qui compte, c'est pas que vous nous disiez, il y a X années, j'ai été sauvé, je suis sauvé depuis tant d'années. C'est est-ce que tu l'es aujourd'hui? Est-ce que le monde sait que tu es un sauvé? Que tu ne te plains plus, mais que tu rends grâce, que ta vie est vraiment une louange à la gloire de Dieu. Et que ça fait envie d'avoir ce secret que vous avez. Soyez toujours prêts à répondre avec douceur et crainte à quiconque vous demande la raison de l'espérance qui est en vous. Est-ce que le monde sait qu'il y a une espérance qui nous habite vraiment? Et que cette espérance, elle est toute proche de devenir une réalité pour nous. Voyez-vous, ce que je trouve extraordinaire, de merveilleux, hein, ces femmes, elles aimaient le Seigneur. Alors, quand on aime le Seigneur, rien ne nous coûte. Même quand on fait des erreurs. Ces femmes se sont levées de bon matin, de très grand matin. Elles n'étaient pas des dormeuses, des paresseuses. Elles ont observé le sabbat, oui, parce que la parole disait qu'il ne fallait faire aucune œuvre, mais dès qu'elles ont pu, elles ont préparé les aromates. C'était une erreur. Ce sont les œuvres mortes. Ça ne va servir à rien. Ces aromates seront perdus. Comme toutes les œuvres qu'on essaye de faire pour le Seigneur, ça ne vaut rien. Si ce sont nos œuvres. Car les seules œuvres qui comptent pour Dieu, ce sont celles qu'il a préparées d'avance pour que nous les accomplissions. C'est-à-dire que nous entrions dans une obéissance à sa parole. Voilà les œuvres qui glorifient le Seigneur. Donc, ces femmes aiment le Seigneur. Elles ont tout quitté pour lui. Elles l'ont soutenu matériellement. Maintenant, elles se lèvent de grand matin. Et puis elles n'ont pas peur de marcher, elles s'en vont au sépulcre. Elles n'ont pas même peur des gardiens du tombeau. Mais ce qui les préoccupe, c'est comment est-ce que nous pourrons rouler la pierre. Elles pensent qu'elles n'ont pas beaucoup de force, puis elles ont vu que la grande pierre qui fermait le sépulcre était lourde. Alors, dans l'évangile de Marc, il est dit qu'elles se disaient entre elles, qui est-ce qui va nous rouler la pierre? Eh bien, nous sommes exactement comme ces femmes. Nous avons toujours peur de la grosse pierre. On ne pourra pas la bouger, cette pierre. On va de l'avant, mais on sait qu'il y a une grosse pierre. Et puis, on se demande, mais qui va nous rouler la pierre? Et qu'est-ce qu'elles voient quand elles arrivent? La pierre est roulée, de sorte qu'elle n'avait pas à se faire du souci. Et c'est à cause de nos soucis qu'on a des longues têtes. Pas de théière, mais de cafetière. Bien souvent, les chrétiens ont des têtes de cafetière. Il n'y a pas de joie. Il n'y a pas de sérénité. C'est tellement triste. Mais parce qu'on a peur. Oui, on sait qu'il y a une grosse pierre. Qui va nous rouler la pierre? Il n'y a pas besoin de vous en faire, elle est déjà roulée. Pourquoi est-ce qu'on ne marche pas dans la foi? Est-ce que le Seigneur n'a pas dit, moi j'irai devant toi, j'aplanirai les choses élevées, je briserai les barres de fer, je casserai les portes des reins? Mais la foi, c'est s'emparer de cette parole. Et alors on va de l'avant. Si c'est Dieu qui m'a demandé de faire une chose, on pourrait me couper la tête, c'est bien égal. Nous allons de l'avant. Nous devons être délivrés de la peur et de nos frayeurs. La pierre était déjà roulée. Et puis, elles n'ont pas peur des gardes. Alors, qu'est-ce qu'elles vont chercher dans le sépulcre? Mais quand elles y arrivent, ce qu'elles ont cherché, elles ne l'ont pas trouvé. Et c'est ça la vie des chrétiens, bien souvent. Ils cherchent quelque chose. Oui, ils cherchent, mais c'est un Jésus mort. C'est un Jésus enseveli. Et quelquefois, dans certains cultes, même d'adoration, il me semble que vraiment on est dans des tombeaux. On ne parle que du cadavre. Et de tout ce qu'on y a fait, c'est vrai, il y a eu ces visions épouvantables, elles ont regardé ça de loin. Mais ce qu'elles sont venues chercher, c'est le corps pour l'embaumer, comme si ce corps pouvait se corrompre. Non, mes amis. Alors, ce qui me bouleverse, c'est l'amour de Dieu. Et si nous étions un peu comme ces femmes, vous savez ce qui nous arriverait? On verrait des anges. Parce que quand Dieu voit un cœur qu'il aime, même s'il s'aperçoit qu'il n'y a pas d'intelligence dans tel ou tel service qui est fait pour lui, il dérange le ciel pour éclairer cet âme. Quand Dieu voit qu'il y a vraiment de l'amour, même quand on peut faire des erreurs, le ciel se dérange. Et voilà que tout à coup, alors qu'elles sont dans la perplexité, c'est les premiers versets du chapitre 24, n'est-ce pas? Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant des aromates qu'elles avaient préparés. C'est des femmes pieuses, hein? Elles trouvèrent que la pierre était roulée de devant le sépulcre. Étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur. On n'a pas trouvé. Alors, saisies de frayeur, elles baissèrent. Alors, comme elles ne savaient que penser de cela, donc il y en a qui ne savent pas que penser. Pourquoi? Pourquoi ils n'ont pas trouvé? Ils ne savent plus que penser. Ils ont pourtant voulu manifester leur amour au Seigneur. Puis, voilà que ça marche pas et... Ils sont déçus, n'ont pas trouvé. Elles ne savaient que penser de cela. Voici deux hommes leur apparurent en vêtements resplendissants. Ah, ils ne venaient pas de la terre. Ils venaient d'en haut. Saisis de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» C'est clair. Le message d'en haut, le message du ciel, « Ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant. » Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé. Ben, c'est ça. Et c'est ça que je voudrais que vous reteniez ce soir. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore avec vous en Galilée. Et alors là, ça éveille un souvenir. Qu'est-ce qu'elles ont oublié? Et ce qu'il disait, verset 7, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, et cela, elle l'avait lu, elle l'avait réalisé que c'était vrai, ce qu'il avait dit, et qu'il ressuscite le troisième jour, ça, elle l'avait oublié. Et c'était cela qui était essentiel. Pour moi, ce que je crois, c'est que nous avons oublié l'essentiel. Elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. Et je veux terminer ici. Que nous puissions, ce soir et dans la nuit, nous souvenir des paroles de Jésus. Il n'a pas seulement dit qu'il ressusciterait. Il a dit qu'il reviendrait. Un jour, comme il a été ressuscité, le Seigneur sera revenu. Demain, nous considérerons comment le témoignage de ces femmes a été reçu par les disciples, qui étaient donc les disciples de Jésus, qui avaient entendu toutes ces paroles. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit quand ils ont entendu le témoignage de ces femmes qui avaient été visitées par des anges, parce que Dieu peut envoyer des anges aujourd'hui à ceux qui l'aiment. Si vous l'aimez, vous aurez des délivrances. Si vous l'aimez, même si vous avez fait des choses tout à fait erronées pour lui, le Seigneur n'a que de la compassion. Il est un Père de miséricorde et il enverra des anges, des êtres resplendissants pour vous éclairer, pour vous illuminer. Mais qu'est-ce qu'on dira? C'est des rêveries. C'est exactement ça. Ce sont des rêveries. Elles ont perdu la tête. Ces femmes. C'est des femmes. Pourtant, elles tiennent une grande place dans le monde. C'est des femmes. Qu'est-ce qu'elles peuvent dire de Jésus? Bien, mes amis, laissons maintenant la parole du Seigneur faire son œuvre. Mais c'est beau! C'est beau! Le ciel se dérange pour des femmes qui aiment le Seigneur. Le seul secret pour nous, c'est d'aimer le Seigneur. Et c'est pourquoi nous voudrions que ses enfants, dès leur enfance, puissent vraiment aimer le Seigneur Jésus. C'est la solution du problème. Dieu notre Père, nous venons d'entendre ta parole. Et nous voulons te confesser que bien souvent, nous n'avons pas cru que tu disais. Ou que nous ne croyons pas que c'est pour bientôt, que c'est actuel. Et Seigneur Jésus, pourtant nous voyons que le monde aujourd'hui, comme tu nous le montreras demain matin, le monde est dans les temps de la fin. L'iniquité augmente, c'est l'apostasie partout, c'est l'angoisse. Donne-nous un témoignage renouvelé, même si on nous traite de rêveurs, nous savons que c'est la réalité. Car tu as dit au Jésus, avant de quitter les tiens, que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Et je vais vous préparer une place. Et si je m'en vais et que je vous prépare une place, je reviendrai. Et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi avec moi. S'il en était autrement, je vous l'aurais dit. Alors nous voulons croire ce que tu as dit, et nous laisser pénétrer par cette bienheureuse espérance de ton retour, qui ne sera plus bientôt une espérance, mais la glorieuse réalité. Car tu as parlé de ceux qui seraient estimés dignes d'échapper à ce qui vient dans ce monde. Et nous savons que ce qui vient dans ce monde, c'est la colère de Dieu. Mais nous n'attendons pas la colère. Nous n'attendons pas le jugement. Nous étant détournés des idoles vers Dieu. Et nous voulons te demander que nos jeunes qui sont ici sachent se détourner des idoles. Sers-toi pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. C'est ce que nous te demandons ce soir. En te bénissant et en t'adorant. Amen.